Vous écoutez, on lit pour vous.
La diminution de la collecte au cœur d'une révolution. Un texte de Jérôme Savary, publié le 11 décembre 2025 dans La Voix de l'Est. Dans nos bacs à ordures, on retrouve encore 46 % de matière organique ainsi que 22 % de matière recyclable, selon la MRC de la Haute-Yamaska, citant Recycle Québec. Autour de nous, certains se demandent comment ils réussiront à composer avec la diminution de la fréquence du ramassage des ordures à compter du 1er janvier 2026. Au lieu d'une fois toutes les deux semaines, celui-ci passera à une fois par mois. Plus on est, plus on consomme et plus on remplit de bacs. Éric Gouin, proche aidant qui héberge sa belle-mère malade, nous a également fait part de sa réalité par courriel. Cette situation générant plus de déchets non compostables ou recyclables. On est conscient qu'il y aura une période de transition, reconnaît en entrevue René Beauregard, préfet de la MRC de la Haute-Yamaska. On est quand même très confiant que la majorité du monde va ajuster le tri en conséquence. C'est dans le but d'améliorer notre environnement, souligne-t-il. Il y a également des raisons financières. Nous y reviendrons plus loin. Un constat et de nouvelles règles de tri. Selon Karine Denis, directrice du service de gestion des matières résiduelles à la MRC, on peut faire mieux dans notre façon de trier. Selon le dernier bilan de Recycle Québec, on retrouve encore 46 % de matière organique dans les bacs à ordures, puis 22 % de contenants, emballages ou imprimés recyclables. Karine Denis, MRC de la Haute-Yamaska. Les nouvelles règles de tri, si elles se rendent jusqu'aux oreilles des citoyens, leur faciliteront la tâche. Depuis le 1er janvier 2025, trier ses déchets n'a effectivement jamais semblé si simple. En effet, plus besoin de penser aux numéros des différents types de plastique ou aux symboles inscrits sur les emballages pour savoir ce qui prend ou pas le chemin du bac de récupération. Il suffit de se demander simplement « est-ce un contenant, un emballage ou un imprimé ?» Chaque déchet répondant à l'une de ces catégories doit être recyclé. Les barquettes alimentaires en polystyrène, styrofoam, petits pots de yogourt, sacs de chips et emballages de barres tendres, tout ça va dans le bac bleu. Source, Karine Denis, MRC de la Haute-Yamaska. Une campagne de sensibilisation de la MRC martèlera ce message, qu'on retrouve également sur son site Internet. Au niveau technique, l'équipe de gestion des matières résiduelles de la MRC est là pour accompagner les citoyens, souligne Mme Denis. Quelques trucs et conseils peuvent atténuer beaucoup d'appréhension. Responsabilité élargie des producteurs. La modernisation de la collecte sélective, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, s'appuie sur le principe de responsabilité élargie des producteurs. C'est une sorte de révolution à laquelle on assiste. Karine Denis, directrice du service de gestion des matières résiduelles à la MRC. Les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont désormais responsables de leur gestion en fin de vie, selon Recycle Québec. Des exceptions et des bacs supplémentaires. En principe, la règle en matière de récupération des ordures est d'un bac roulant par ménage. Certaines exceptions s'appliquent. Un ou deux bacs roulants supplémentaires peuvent être accordés à condition de faire partie d'une des catégories suivantes et d'en justifier la demande à la MRC. Appelez au 450-378-9976, poste 2231. Les familles de 6 occupants et plus, les entreprises agricoles comprenant la résidence, jusqu'à 3 bacs de plus. Les garderies en milieu familial, les maisons d'accueil pour personnes âgées, les ménages avec des enfants portant des couches, les ménages où l'on retrouve une personne dont la condition médicale génère plus de déchets. Les ménages admissibles devront toutefois payer le coût du bac et les frais associés à la levée additionnelle. Le coût additionnel pour la levée en 2025 est de $60 par année à Green Bay, nous a répondu la MRC jeudi matin. Le coût du bac est variable en fonction du marché, a priori entre $150 et $200 selon nos recherches. Note de la rédaction. Les ménages recevront ensuite un autocollant qu'ils pourront apposer sur leur bac supplémentaire. Objectif : contrôler les coûts. Cette révision de la collecte a également un motif financier. Ces dernières années, les coûts à l'enfouissement n'ont fait qu'augmenter, indique le préfet de la MRC. Le passage à une fois par mois ne signifie pas un coût moindre de collecte pour la MRC en 2026, prévient-il. C'est plutôt une préoccupation pour maintenir un coût raisonnable. D'autres municipalités et une MRC ont déjà adopté de telles pratiques. M. Beauregard donnant les exemples de Magog, Sutton, Dunham, Eastman et la MRC des Chenaux à l'est de Trois-Rivières, en Mauricie. Quid des multilogements et des conteneurs? La révision de la collecte des ordures en Haute-Yamaska s'applique uniquement aux bacs roulants et non aux conteneurs. La fréquence du ramassage des ordures dans le cas des multilogements, de 6 logements et plus, est maintenue aux 2 semaines, car ceux-ci disposent de conteneurs. Par ailleurs, le changement de rythme de collecte pour les bacs roulants entre en vigueur après que la fréquence de collecte des bacs bruns de compost soit passée l'hiver de 4 semaines à 2 semaines, le 1er janvier 2024, précise la MRC. C'était « La diminution de la collecte au cœur d'une révolution », un texte de Jérôme Savary publié le 11 décembre 2025 dans La Voix de l'Est.
Peut-on vendre ses plats maison sur Marketplace? Un texte de Jasmine Rondeau, publié le 6 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. À travers les meubles, les vêtements et les articles de maison, un nouveau type de petites annonces a commencé à faire son apparition dans les dernières années, des aliments préparés. De quoi causer quelques maux de tête au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, MAPAC, qui a même récemment renforcé sa réglementation afin de mieux protéger la santé du public. Plats à base de poulet, repas internationaux, fruits de mer cuisinés, confitures ou gâteaux et desserts sur commande, ces offres sont toutes disponibles en Estrie via la plateforme Marketplace. Mais ce nouveau type de petites annonces est-il légal? Citation. La réponse directe, c'est oui. Fin de citation, indique Francis Roberge, conseiller en salubrité des aliments et porte-parole au MAPAC. Or, plusieurs conditions sont à respecter, précise-t-il. Citation. Premièrement, un permis est requis pour préparer des aliments, et ce, peu importe le lieu. Ensuite, on demande une formation en hygiène et salubrité alimentaire de 6 heures. Elle est exigée pour tous les exploitants. Fin de citation. La formation est offerte par différents formateurs certifiés pour plusieurs dizaines de dollars. En ce qui concerne le permis, celui-ci coûte $360 annuellement. Pincé sans permis, un traiteur clandestin s'expose à une amende allant de 5 000 à $50 000 en vertu de la loi sur les produits alimentaires. Même avec un permis, lorsqu'il s'agit d'une cuisine domestique, la vente en gros, soit à un détaillant ou à un restaurant, est toutefois interdite. Le particulier en question est ainsi restreint à la vente directe aux consommateurs, en plus d'avoir certaines limites de production mensuelle, rappelle M. Roberge. Une majorité sans permis dans notre échantillon. Radio-Canada a fait l'exercice d'entrer en contact avec 20 annonceurs alimentaires dans la région. Sur ce nombre, nous avons pu confirmer que seulement 3 détenaient un permis pour leur cuisine. 13 ont indiqué qu'ils n'en détenaient pas et 4 ont cessé de répondre lorsque nous avons abordé le sujet. Le portrait préoccupe le MAPAC, dont la mission est notamment de protéger la santé du public. si bien qu'il a dû changer les règles du jeu récemment. Citation : Il y a eu une modification réglementaire en 2024 pour exiger aux manipulateurs d'aliments qui font de la restauration à domicile un permis. C'est en fonction de cette nouveauté-là, de cette émergence de vente en ligne que le ministère a dû le faire. Fin de citation. En 2024, 26 exploitants sans permis ont été condamnés par le ministère au Québec. La liste pourrait toutefois s'allonger, précise-t-on, puisque plusieurs cas sont toujours en attente d'un jugement. Malgré le nombre de vendeurs hors règles notés par Radio-Canada, le MAPAC assure disposer de tous les outils pour sévir contre les cuisiniers clandestins. Il invite d'ailleurs la population à se montrer vigilante et à lui signaler les contrevenants. Citation : Si vous avez un doute à l'effet que la personne a un permis ou pas, vous pouvez aller vérifier sur nos outils qui sont disponibles sur notre site Web et, le cas échéant, vous pouvez faire une plainte au ministère et elle sera adressée. Fin de citation, avance M. Roberge. Des options existent. Question salubrité, ce ne sont pas toutes les cuisines qui ont le potentiel d'être certifiées facilement. Michel Gosselin, jeune entrepreneur alimentaire, l'a bien compris lorsqu'elle a étudié ces options. La propriétaire de Burley's Chow, qui se spécialise dans la production de condiments à base d'oignons et de vinaigre en l'honneur de sa défunte grand-mère, s'est butée à plusieurs obstacles. Citation : Avec des animaux à la maison, ce n'était pas l'idéal. Puis aussi avec le produit que je fais, avec du vinaigre, les oignons, ça sent quand même assez longtemps dans la maison. Et si j'avais voulu faire mon produit chez quelqu'un d'autre, il aurait fallu que je sois assurée. Et les assurances n'aiment pas ça. Fin de citation. À la fin décembre 2025, elle s'est donc tournée vers la cuisine collective certifiée de chez Crocarium à Sherbrooke, une première locataire pour l'organisme installé au couvent Sainte-Famille. En empruntant cette cuisine, pas de souci de permis. Ce sont les installations qui détiennent le permis du MAPAC. Prudence et formation. La jeune femme, qui est pour le moment agente de bord à temps plein, n'utilise pas Marketplace pour vendre ses produits et n'envisage pas de le faire. Pour l'instant, elle fait déjà affaire avec la fromagerie La Station qui vendra ses produits. Citation : Je suis d'accord et pas d'accord avec le fait que les gens vendent sur Marketplace, établit-elle. Si tu achètes à quelqu'un sur Marketplace et qu'ils ne sont pas certifiés, tu ne sais pas dans quel état leur cuisine était, s'il y avait un chat sur le comptoir. Fin de citation. De son côté, pour se lancer avec des bases solides et sécuritaires, Mme Gosselin a suivi une formation de 12 heures reconnue par le MAPAC qui combine la manipulation d'aliments et la gestion d'établissements alimentaires. Elle a également suivi une formation facultative de 3 mois en ligne sur le démarrage d'une entreprise de transformation qui était offerte gratuitement par le gouvernement jusqu'à tout récemment. Citation : Si je m'étais lancée à la maison sans certification et sans m'informer, j'aurais pu contaminer mes aliments et tout ça. Fin de citation, conclut celle qui voit d'un œil positif le contrôle effectué par le ministère. C'était « Peut-on vendre ses plats maison sur Marketplace ?» un texte de Jasmine Rondeau, publié le 6 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.
Une fois par mois, le devoir fait un bref saut dans le passé en présentant et en remettant en contexte une photo d'archives de l'agence Magnum. Aujourd'hui, de la surconsommation à la déconsommation. Comment mieux optimiser ce qu'on produit? Un texte d'Augustin de Boudinière publié dans le devoir du 23 décembre 2025. Citation. Est-ce qu'on pourrait trouver une sorte de compromis en préparant une sortie progressive de cette logique consumériste pour accorder moins d'importance à la consommation matérielle? Cela permettrait de donner plus d'importance à des besoins plus immatériels qui vont devenir centraux dans nos sociétés. Besoin d'être en bonne santé, de vivre dans un environnement sain. Fin de citation. Estime Cécile Desaunay, directrice d'études au Centre de réflexion français Futurib. Selon l'autrice de la Société des besoins, comment passer du superflu au suffisant? La population de l'Hexagone consomme un peu plus chaque année, mais avec une croissance moindre que celle d'il y a une ou deux décennies. Le vieillissement des Français, la surabondance en équipement, les contraintes financières et les critiques anticonsuméristes y sont pour beaucoup. La consommation ne fait pas le bonheur. Citation, il y a une sorte de détachement et de critique de la société de consommation parce que, on le voit beaucoup en France, il y a cette idée que finalement, on s'est aussi un petit peu fait avoir et qu'on prend conscience des limites du consumérisme, que ça ne rend pas heureux, que ça coûte de l'argent et qu'on nous vend des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Explique Mme Desaunay, fin de citation, qui considère d'ailleurs cette période de consommation qui a commencé pendant les Trente Glorieuses comme une parenthèse. Juste après la Seconde Guerre mondiale, la croissance s'emballe, la population augmente, l'offre de biens et de services aussi, et les ménages sont peu équipés. Si ces besoins devaient être satisfaits, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'ils le sont déjà pour la majorité de la population. Citation. On continue à générer de la croissance un peu artificiellement avec du renouvellement. On remplace nos équipements ou on nous convainc qu'il faut en acheter d'autres, observe Mme Desaunay. Mais ça reste très artificiel et donc ça reste insuffisant parce qu'en fait, les gens ne vont pas remplacer tous leurs équipements tout le temps. Fin de citation. Elle souligne par ailleurs l'éloignement géographique des consommateurs des pays riches avec ceux qui fabriquent les objets que nous acquérons, les empêche de percevoir les effets catastrophiques de leur production sur l'environnement. Un événement comme le Vendredi fou, qui permet aux consommateurs d'acheter leurs cadeaux de Noël à prix réduit, notamment, a pourtant des conséquences écologiques majeures. Pour contrer de tels événements, des solutions de rechange existent, comme le Green Friday, qui promeut une consommation responsable et raisonnée. En outre, si les besoins fondamentaux, comme se nourrir, se loger ou se déplacer, sont largement satisfaits pour la plus grande partie de la population des sociétés riches, une portion des individus ne parvient pas à y répondre. Le World Inequality Report de 2026, sorti en décembre, révèle d'ailleurs que les 10 % les plus riches possèdent 75 % de la richesse mondiale. Renverser la pyramide. Citation. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes au service de l'économie et c'est quand même complètement délirant. C'est-à-dire que nous, individus, on est soit des consommateurs, soit des travailleurs. Remarque Cécile Desaunay, fin de citation. Plutôt que mettre les besoins économiques à la base de notre pyramide des nécessités actuelles, Mme Desaunay propose de les remplacer par ceux des écosystèmes naturels surexploités sur une Terre dont 7 des 9 limites planétaires ont été dépassées, afin de pouvoir vivre dans un environnement sain. L'économie serait alors précédée par 3 autres catégories de besoins. Les besoins fondamentaux, immatériels, comme la santé et le bien-être, et matériels. La directrice d'études recommande aussi d'interdire la publicité pour les produits et les services les plus polluants, de privilégier l'occasion au neuf, d'encourager la sobriété ou encore d'instaurer des quotas de consommation individuels. Pour répondre à des besoins qui deviennent surtout immatériels, Cécile Desaunay suggère, dans son livre de mettre en place une économie de fonctionnalité qui, citation, « répond aux besoins avec des services plutôt qu'avec des biens ». Fin de citation. Elle donne l'exemple de forfaits de communication téléphonique accompagnés de différents services qui varient en fonction des besoins du client. La compagnie qui les vend et qui conserve la propriété du téléphone serait donc plus encline à façonner des objets qui durent. Citation, « Je peux avoir d'autres services. Je peux avoir des services de réparation. Mais au bout de 6 mois ou d'un an, si j'ai encore de l'argent et que je me dis « je veux un nouveau téléphone », je le rends à l'entreprise qui le garde et le reloue pour moins cher », ajoute-t-elle. Fin de citation. Autre citation, « On ne sort pas du système, mais le discours imaginaire qui consiste à croire qu'on va expliquer aux gens qu'à partir de maintenant, il ne faut plus rien acheter, ça n'a pas de sens. Je pense que ce n'est pas la réponse non plus, personne n'y croit et personne ne voudrait y aller », estime Mme Desaunay. Pour moi, la question c'est plutôt « comment optimise-t-on mieux ce qu'on produit et ce qu'on achète ?» Fin de citation. Et fin de ce texte d'Augustin de Baudinière, titré « De consommer à déconsommer », publié dans Le Devoir du 23 décembre 2025.
Du bénévolat avec les accusés sans avocat. Un texte de Maïssa Ferrat, paru le 28 décembre 2025 dans la presse. Une initiative du jeune barreau de Montréal, le service d'information juridique, SIJ, permet de gagner un temps précieux au tribunal en offrant un soutien essentiel aux personnes accusées sans avocat. Jeudi matin 9h, les couloirs du palais de justice de Montréal grouillent de monde. Des procureurs traînent leurs lourdes valises bourrées de paperasse. Des avocats de la défense ajustent leur toge en cherchant leurs clients. Des constables scrutent la file d'accusés qui s'entassent devant la salle d'audience 4.06, une salle à volume où plusieurs dossiers sont traités rapidement. C'est là que nous attend Maître Alexis Galarneau. Maître Galarneau est l'avocat de la défense pro bono de la journée. Depuis début décembre, une trentaine de bénévoles affiliés au jeune barreau de Montréal prennent part au service d'information juridique, SIJ. Le programme, déjà implanté à la cour municipale, fait son entrée à la Cour du Québec. Le but, offrir aux accusés sans avocat de l'aide gratuite lors de leur première comparution. Les avocats rencontrent les accusés non représentés à leur première date de cour, leur expliquent les accusations, les informent sur les programmes offerts, les prochaines étapes du processus judiciaire et les représentent lors de leur première audience. Ça enlève un fardeau à la cour, résume Maître Galarneau, qui en est à sa 7e année de pratique. Dans un système de plus en plus lourd, ces quelques heures pro bono aident tout le monde, souligne la criminaliste. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps ni les fonds pour une première consultation ou simplement qui ne voient pas l'utilité d'un avocat. Mais on peut leur faire gagner du temps et les informer pour ne pas qu'ils se retrouvent inutilement avec un casier judiciaire, poursuit-elle. Les accusés introuvables, les gens à qui les rouages du palais de justice sont peu familiers, ceux qui s'entêtent à interrompre le juge, la communication laborieuse avec les établissements de détention. Les défis sont nombreux dans une salle de comparution. Avoir une avocate au service des accusés non représentés facilite les choses. Une juge ravie. La juge Joëlle Roy gère le 4.06 en ce jeudi matin. La salle est bondée. Des habitués du palais de justice écorchés par la vie, des jeunes adultes aux traits encore poupins qui en sont à leurs premiers méfaits, des accusés qui regardent l'heure déjà pressés d'en finir. Au fond de la salle, un homme qui semble sans domicile fixe, au visage blessé, doit comparaître pour une accusation d'entrave. Il vient de subir une opération en raison d'une violente agression, comme en témoigne son visage tuméfié. Maître Galarneau se présente à la magistrate. Elle explique qu'elle s'occupera des personnes non représentées par des avocats ce matin. « Ça, j'adore ça, c'est de la musique à mes oreilles », lance la juge Roy. En Ontario, ils le font déjà, je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas le cas au Québec, se réjouit-elle. Elle va même plus loin. Si vous pouviez étendre ça à la salle 3.07, une autre salle à volume, mettons, c'est là qu'on a le plus besoin d'assistance. Ça enlève beaucoup de pression. Ces salles souvent pleines révèlent au grand jour les enjeux sociaux. Santé mentale fragile, comportement désorganisé, itinérance, accusés perdus dans le système. Sans avocat, le processus peut devenir incompréhensible. Le SIJ apporte un répit bienvenu dans ce chaos. Pour plusieurs, c'est une première accusation criminelle. Ils sont désorientés et pensent qu'ils vont simplement plaider coupable pour en finir. Mais avoir quelqu'un qui les guide et les informe de leurs droits, c'est super important, commente Maître Galarneau. La présence des bénévoles du SIJ évite aux juges de devoir demander aux avocats, parmi ceux qui sont sur place, d'agir comme amis de la cour ou que les dossiers soient renvoyés vers l'aide juridique déjà débordée. Ces démarches sont souvent longues. Dans un contexte où les délais judiciaires font les manchettes, chaque minute compte. Ça aide le système judiciaire, ça aide le procureur, ça enlève beaucoup de pression, note la juge Roy, dans un long laïus qui louange l'initiative avant de poursuivre l'appel des accusés inscrits au rôle. Une justice accessible pour tous. La salle se remplit d'avocats. Un homme accusé de non-respect de ses conditions de probation estime qu'il peut se représenter seul. La juge Roy lui annonce la présence de Maître Galarneau. « Je profiterai des services de Maître Galarneau si j'étais vous », suggère la magistrate. L'air avenant de la criminaliste le convainc d'accepter. Maître Galarneau répond aux nombreuses questions de l'accusé sur l'Institut Philippe Pinel, l'hôpital psychiatrique à haute sécurité et sur les procédures d'appel. Il ressort avec une longue liste de numéros de téléphone. Ensuite, un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, cherche son avocat qui n'est pas là. Il m'a dit « Remets-le à mardi prochain, genre », bafouille-t-il. Maître Galarneau s'en charge. Elle prête aussi main forte à un autre jeune accusé, pressé, car il va rater son examen à l'école. L'avocate lui parle et il quitte la salle d'un pas léger. Ce service ne force pas les accusés à continuer avec le même avocat. Ils peuvent s'ils veulent, mais ce n'est pas de la sollicitation. On le fait vraiment dans nos temps libres pour aider, précise Maître Galarneau. Le processus judiciaire est stressant. Quand on te demande d'être là à 9 heures, tu peux attendre plusieurs heures avant de comparaître. Les accusés ne comprennent pas les subtilités du jargon. Je peux être là pour les guider ou les orienter vers des ressources, poursuit-elle. Engouement chez les bénévoles. Selon Maître André-Anne Dion, présidente du Jeune Barreau de Montréal, l'arrivée du SIJ à la Cour du Québec pourrait n'être qu'un début. Il y a des discussions pour l'élargir à d'autres salles si ça se passe bien et qu'on a assez de bénévoles. L'horaire du premier mois s'est rempli rapidement, se réjouit-elle. Au-delà de l'aide à la population, ce service permet aux jeunes avocats d'aiguiser leurs réflexes et de gagner en expérience, précise Maître Dion. On peut avoir cette image de l'avocat qui ne veut pas donner de son temps gratuitement, mais en fait, on a beaucoup de gens intéressés, se réjouit-elle. C'était du bénévolat avec les accusés sans avocat. Un texte de Maïssa Ferra, paru le 28 décembre 2025 dans la presse.